un électeur qui est responsable personnellement pour ça, mais de la façon dont ils ont mis, les électeurs ont mis les cartes, ce ne sera pas facile.
Le travail est titanesque. Concilier l'inconciliable.
La Belgique en question. Un documentaire en 3 épisodes proposé par Arnaud Reussen.
Ils ne veulent pas le confédéralisme, mais qu'est-ce qu'ils veulent alors ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent alors ?
3e et dernier chapitre. Et maintenant, on fait quoi ?
Essayons, pour refermer ce triptyque, de tracer quelques perspectives d'avenir. Un avenir toujours bien dans le brouillard à l'heure qu'il est, tant le nœud semble inextricable au fédéral si l'on tient compte des exclusives posées par les uns et les autres.
Ne me demandez pas de former un gouvernement normal avec les gens des écolos qui me traitent de nazis, ou même les PS qui plaident quand même pour des frontières ouvertes, pour une politique de sécurité qui est faible et laxiste. Et c'est impossible, ils veulent même légaliser les stupéfiants. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun sujet sur lequel on est d'accord.
Je vous le dis, c'est très clair, on l'a dit avant la campagne, on le répète après la campagne, le PS ne négociera pas avec la NVA et nous n'irons pas avec la NVA parce que nous n'avons absolument rien en commun.
Bref, les champions électoraux du Nord et du Sud disent ne pas vouloir travailler ensemble. Et si l'on fait l'addition des portes fermées par chacun des partis, le constat est clair, impossible de former aujourd'hui une coalition fédérale. Alors, le nœud est-il plus inextricable que jamais ? Est-ce la voie royale vers le confédéralisme, voire l'indépendance ? Ou au contraire, le temps est-il venu de refédéraliser certaines compétences, comme le réclament certaines voix du Sud ? Mais aussi du nord du pays, on va prendre le temps d'examiner les scénarios possibles. Et commençons par prendre la mesure de l'ampleur du blocage. Le résultat des élections, l'impression de crise qui en découle, la situation est-elle plus grave que d'habitude ? Pour le président du CRISP, Vincent de Corbitaire, il y a lieu de regarder de près ce que signifient les différentes exclusives posées par les partis.
Le refus de certains partis de gouverner avec d'autres partis. Et cela, je crois, ça doit être pris très au sérieux. Ça n'est pas seulement une affaire de tactique ou de temps nécessaire pour digérer une campagne électorale, parfois un peu au couteau. Ça n'est pas la première fois qu'elles sont un peu rudes. Je pense que ça traduit d'abord une polarisation de l'opinion et un durcissement des enjeux. Les questions des inégalités, de la précarité socio-économique sont plus urgentes que jamais pour une partie de l'opinion et se heurtent à des partis qui ne veulent pas modifier les lignes, je dirais, de base du fonctionnement de l'économie. Il y a la question migratoire qui est devenue centrale dans des sens divers pour différentes fractions de l'électorat, que l'on soit favorable à lutter contre les discriminations, que l'on soit favorable à l'inclusion des populations d'origine étrangère, ou au contraire du côté de personnes inquiètes ou en colère devant des flux migratoires qu'elles jugent incontrôlés, à vivre ensemble, qui selon elles ne fonctionnent pas. Et puis il y a l'ensemble des enjeux écologistes qui aujourd'hui, ne serait-ce que sur la question climatique, exige pour tous ceux qui y sont très sensibles un changement radical de cap d'organisation de l'économie, d'organisation de la société. Et donc, c'est très difficile, effectivement, aujourd'hui, où on a des enjeux aussi lourds et où les opinions sont aussi clivées, de mettre ensemble des partis qui, sur ces enjeux-là, sont éventuellement aux antipodes les uns des autres. Qu'y a-t-il de commun entre la NVA, et je ne vais pas prendre un parti francophone, entre la NVA et Groen ? Bardewey, vers lui-même, a dit « c'est inconcevable pour moi de gouverner avec Groen ».
Intéressant de noter que ce durcissement, cette polarisation décrite ici par Vincent de Corbitaire, n'est pas à première lecture communautaire. Il s'agit d'arbitrages fondamentaux sur de vrais choix de société. Mais il y a pour la Belgique une donnée supplémentaire à l'équation. Ce sont les rapports de forces politiques très différents au nord et au sud du pays, alors que les enjeux exigent pour partie des solutions à l'échelle de la Belgique, voire au-delà. Et c'est peut-être ça qui fait de ce moment l'un des plus difficiles de l'histoire de la Belgique, comme le relève Chantal Kestelhout, historienne au CGS.
Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense par exemple à la question royale, où là aussi on a eu l'impression vraiment de deux Belgiques qui s'affrontaient et difficile d'imaginer un compromis, mais en même temps, on avait des forces politiques qui étaient des forces politiques nationales, qui s'adressaient à l'ensemble de la société civile, même si c'est un terme qu'on n'utilise pas encore en 1950. Aujourd'hui, on a affaire à une fragmentation extrême de la classe politique, et ce qui est peut-être un facteur aggravant, c'est qu'on est dans un contexte de méfiance vis-à-vis du politique qui dépasse largement le contexte belge, hein, avec des forces politiques un peu partout en Europe qui apparaissent et qui nous font douter de la légitimité du politique. Donc je dirais que ces facteurs-là sont des éléments aggravants dans le contexte belge.
Est-on reparti alors pour une interminable crise ? Serait-on même cette fois dans une indépassable impasse ? Pour l'éditorialiste du Laatstenius, Jan Segers, c'est un peu tôt pour le dire.
Je crois qu'il est trop tôt de vraiment s'inquiéter. Mais bon, on voit quand même qu'il y a un fil rouge à travers toutes les formations de gouvernement qu'on a vues ces dernières années, et que c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Il faut faire de plus en plus d'efforts et de compromis pour arriver encore à quelque chose. Et donc, ça dure de plus en plus longtemps, c'est ce qu'on constate. Cela étant dit, pour la panique, il est trop tôt. Le taux d'intérêt à long terme se trouve en dessous de zéro pour l'instant. Mais il suffirait d'un petit article dans le Financial Times, un petit article critique pour semer la panique, quoi. Et donc tout ça peut tourner très vite.
Ah oui, l'aspect économique justement et les risques sur ce front d'un blocage qui dure, c'est ce que redoute aussi le professeur de finances publiques, Benoît Bayonnet.
Ici, on était en crise déjà avant les élections. Il ne faut pas oublier qu'on a un gouvernement qui est en affaires courantes de manière un peu précipitée avec le départ de la NVA. Et donc, on n'a déjà pas de voté de budget 2019. Donc, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle les 12e provisoires sur base du budget 2018. Donc, alors qu'on aurait dû faire déjà des corrections en recettes et en dépenses pour respecter une trajectoire budgétaire, on ne l'a déjà pas fait au budget 2019. Et on ne sait pas très bien quand on va corriger la situation. On devrait être en train de travailler activement au budget 2020. Or, aujourd'hui, je pense que personne ne travaille sur le budget 2020. Et donc, la Belgique ne peut pas se permettre aujourd'hui un double dérapage budgétaire. C'est mettre en péril non seulement l'avenir du système social, mais aussi du système des pensions, parce qu'on sait que le choc du vieillissement, il est là et il va falloir l'assumer.
Et le problème, c'est que si l'on dézoome encore un peu sur cette impression de blocage et de crise, on constate que dans la Belgique de 2019, il ne suffit pas d'avoir des gouvernements formés pour que les enjeux majeurs soient pris à bras-le-corps.
Il y a eu, au cours de la législature écoulée, une série de dossiers sur lesquels on n'a pas pu trouver des solutions.
Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du journal Le Soir.
On n'a pas pu faire marcher le pays, bon, ce qui est un grand mot, mais en tout cas une série de domaines. Le fait que une région bloque l'autre, et puis qu'on s'est rendu compte en fait que pendant 5 ans, un gouvernement qui avait en fait la volonté de faire vraiment bouger les choses n'a pas su le faire sur un certain nombre de domaines clés, et que les solutions sont quand même pour partie structurelles. Et qu'en fait, si on veut faire marcher ce pays, le faire fonctionner sur la mobilité, le climat, même la SNCB, etc. Il faut vraiment décidément s'y prendre autrement.
Prendre autrement, mais comment ? C'est justement ce que je vous propose d'explorer en partant des différents scénarios possibles, à commencer par celui de la NVA, puisque les nationalistes flamands ont un scénario très clair sur la table depuis quelques années déjà.
Faire de la Belgique une Belgische Confédération, c'est confédération belge.
Alors attaquons-nous à ce mot confédéralisme, désormais objectif affiché de la NVA, qui ne parle plus trop ouvertement de l'indépendance de la Flandre, pourtant toujours inscrite à l'article 1er de son programme.
Le confédéralisme est un mot plus doux pour le séparatisme, un mot qui n'est plus utilisé au sein de la NVA, ou presque plus.
Jan Segers.
On n'ose plus en parler, justement parce qu'on sait que, même à l'intérieur du parti, qu'il n'y a pas une majorité qui appuie le séparatisme et la scission du pays. Reste à voir. Qu'est-ce qu'on veut ou comment définir ce confédéralisme ? C'est vrai que la NVA a des idées précises là-dessus, mais tarde quand même à concrétiser sur certains points ce que cela signifierait et surtout à quel terme la solidarité avec Bruxelles et surtout la Wallonie, à quel terme ça se terminerait.
Et l'historien et chroniqueur au Standard, Marc Rennebeau, n'y voit pas beaucoup plus clair.
Personne ne sait ce que c'est, ce confédéralisme. Ce qu'on en dit, ce n'est pas le confédéralisme, c'est un fédéralisme plus aigu. Mais enfin, comment est-ce qu'on va organiser cela? Il n'y a aucun plan, il n'y a aucun accord, il n'y a aucune préparation, même du côté flamand, voire avec les francophones. Et en plus, si on voudrait vraiment le confédéralisme, il faut le nommer de son propre nom, c'est le séparatisme, puisqu'il faut d'abord séparer avant qu'on puisse faire une confédération. D'ailleurs, le confédéralisme, pourtant que je sache, n'existe nulle part maintenant. Le dernier exemple était la Serbie et la Monténégro, qui a duré 2 années, je pense. Et avant cela, la communauté des États indépendants, qui était le successeur de l'Union soviétique, enfin, qui était aussi un système transitoire, en fait.
Et c'est vrai aussi que le confédéralisme, dans le sens strict du mot, n'est pas d'application ici. Hein. Normalement, le confédéralisme est d'application pour 2 pays différents, séparés, indépendants, qui décident de faire quelque chose ensemble. Ici, c'est l'inverse. Hein. Donc, c'est un modèle assez original, il faut dire. C'est vrai.
J'ai envie de creuser sur ce modèle original, qu'on l'appelle confédéralisme, pré-indépendantisme ou fédéralisme total. À quoi pourrait bien ressembler une 7e réforme de l'État si, dans le cadre de la crise actuelle, on en arrivait à la négocier? Assez étonnamment, c'est chez un francophone qu'on trouve une idée assez construite sur la question. Et pas n'importe quel francophone, puisqu'il s'agit de Benoît Baynet, professeur de finances publiques à l'ULB, mais aussi Sherpa du Parti Socialiste lors de la négociation des aspects économiques de la dernière réforme de l'État, la 6e. Il nous glisse cette réflexion.
S'il doit avoir une 7e réforme de l'État, peut-être qu'il est temps de se dire c'est la réforme pour aboutir à la fin du modèle, et cette fois-ci, on arrête les réformes institutionnelles. Et on ne fait pas une réforme en se disant dans 10 ans on recommence ou dans 5 ans on recommence. On sait que le modèle aujourd'hui, il y a des failles. Hein, je veux dire, le tax shift, tous les débats sur le tax shift, le fait que l'État fédéral prend des décisions qui définancent les régions, alors qu'on dit aux régions, vous devez prendre des mesures, vous devez relancer votre économie, mais moi, fédéral, en même temps, je fais une réforme fiscale et je diminue vos moyens. Alors, on voit bien qu'il y a une espèce d'incohérence dans le modèle qu'il va falloir résoudre à un moment ou à un autre.
Mais alors, pour l'économiste wallon, il faut vraiment prendre le temps de bien la construire, cette réforme. Ce modèle fédéral, très décentralisé, reposant sur 4 régions, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, et ce qui deviendrait une région germanophone à part entière. Et pour bien la construire, cette réforme, il faudrait aller s'inspirer, selon Benoît Baynet, de ce qui se fait dans d'autres États fédéraux, bien plus anciens que le nôtre, pour équilibrer autonomie, responsabilité et solidarité.
Je pense qu'on ne doit pas avoir peur d'un fédéralisme approfondi, s'il est bien construit et si on fait en sorte que, entre guillemets, chacun ait les moyens de se développer. Quand on étudie les systèmes fédéraux allemands, espagnols, canadiens, australiens, on se rend compte qu'il y a davantage de mécanismes de péréquation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mécanisme de péréquation? Ça veut dire que c'est des mécanismes qui permettent de compenser des différences qui seraient fortes entre des régions, et qui leur donne des moyens, évidemment, de compenser, notamment en termes d'offres de services publics, évidemment, pour que le citoyen ne soit pas lésé par une décentralisation trop forte. Alors ça, c'est le défaut de notre fédéralisme d'aujourd'hui, c'est que, mécanisme de péréquation, il y a le mécanisme de solidarité, mais qui a accès uniquement sur le rendement de l'impôt des personnes physiques, et qui ne tient absolument pas compte d'autres différences. Alors, on pourrait faire une grosse caricature, hein. On sait qu'aujourd'hui, la géographie wallonne n'a rien à voir avec la géographie flamande. Forcément, si je veux faire une ligne à grande vitesse qui va de Bruxelles à Luxembourg, je sais qu'en ouvrage d'art, ça va me coûter bien plus cher que si je fais une ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Anvers. Et donc, forcément, la région la plus pauvre devrait, entre guillemets, assumer des coûts qui seraient exorbitant par rapport à sa capacité contributive. Et là, dans tous les pays fédéraux, on va trouver des mécanismes qui permettent de compenser ça. Donc si on réfléchit à un fédéralisme encore plus approfondi, même encore plus responsabilisant, mais on tient compte de différences objectives. Moi, je pense que si cela correspond à la volonté des citoyens, alors il ne faut pas avoir peur d'un modèle plus fédéraliste encore.
Si cela correspond à la volonté des citoyens, voilà une condition importante sur laquelle on va revenir d'ailleurs un tout petit peu plus tard, c'est promis. Avant cela, j'ai envie d'entendre le son de cloche de notre économiste flamand sur le modèle proposé par son homologue francophone. Y croit-il, lui, Geert Noels, à la possibilité d'une dernière grosse réforme de l'État qui serait pacificatrice ?
Je crois bien, oui. Et ça nécessite la confiance, mais ça nécessite aussi un plan qui inspire les gens. Et changer la structure sans un plan qui inspire, qui dit, écoute, c'est quelque chose qu'on aime bien, ça ne va jamais fonctionner. Si c'est juste pour dire, bon, y a un problème entre des partis politiques ou des individus, parce que c'est souvent des égos, c'est pas ça que le Belge attend, mais quelque chose qui inspire, où on dit, écoute, on va investir dans notre pays, on va exploiter le potentiel intellectuel que nous avons, le potentiel de créativité, etc. Ça inspire les gens. Hein, c'est une meilleure structure pour que tout le monde soit plus heureux, et que la jeune génération est inspirée par cette structure. Quand aujourd'hui, ma fille habite Londres, je suis très fier d'un côté, mais ça brise parfois mon cœur aussi qu'elle est en train de construire son avenir à l'étranger. Et elle me demande souvent, mais bon, la Belgique, pourquoi je devrais revenir en Belgique et pas aller au Canada ou rester à Londres ou aller en Asie ? Quel est le projet ? Et là, franchement, je n'ai pas toujours une réponse.
Revenons-en à présent à cette petite remarque faite par Benoît Baynet. Si cela correspond à la volonté des citoyens. Le problème, c'est qu'on est un peu démunis pour décrypter cette volonté des citoyens, puisque ceux-ci ont juste eu le loisir de colorier une petite case au crayon rouge. Et comme on le disait dans l'épisode précédent, ce n'est pas parce qu'ils ont voté pour des partis indépendantistes ou confédéralistes qu'ils se reconnaissent forcément dans cette facette-là de leur programme. D'ailleurs, comme le remarque le philosophe politique Vincent de Corbiter.
Ce n'est certainement pas pour cela qu'on a voté. On n'a pas fait campagne, ni au nord ni au sud du pays, sur l'option confédéraliste. Et donc, conclure, en mettant en place ce scénario, parce que après des élections qui se sont jouées sur d'autres enjeux, pour l'essentiel, on n'a pas su mettre un gouvernement en place, ce serait faire quand même un pas considérable dont la légitimité démocratique serait extrêmement discutable. J'ai du mal à imaginer, notamment du côté francophone, les partis politiques dire « Eh bien oui, la NVA a raison, même si nous ne voulons pas gouverner avec elle, nous allons accepter sa revendication majeure qui, à défaut du séparatisme, est le confédéralisme parce que les partis flamands ne veulent tout simplement pas nous rejoindre et qu'aucun parti flamand ne veut oser entrer dans un gouvernement simplement parce qu'il est minoritaire dans le groupe linguistique néerlandais à la Chambre alors qu'on sait qu'on n'a pas d'obligation d'avoir la majorité dans chacun des groupes linguistiques. Oui, si on en arrive là, effectivement, avec une politique de la chaise vide au plan gouvernemental de la part de tous les partis flamands ou de presque tous les partis flamands, les francophones peuvent être, à leur corps défendant, obligés de négocier le confédéralisme. Ça pose quand même un vrai problème de légitimité. Je ne suis pas du tout un défenseur ni des référendums improvisés, ni des réélections, parce que c'est quand même un aveu d'impuissance et un étrange signal envoyé aux électeurs. Vous nous avez mis dans la panade, essayez de voter autrement, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va être la même chose, mais en pire. Mais à un moment pareil, revenir vers le peuple souverain aurait du sens.
Et sur ce point, l'historienne Chantal Kestelhout fait cette remarque importante.
La NVA elle-même est très très prudente parce qu'elle n'a jamais œuvré pour qu'il y ait par exemple un référendum qui soit organisé dans la société flamande. Et paradoxalement, on a moins de soucis de la part de la NVA à surprotéger Puigdemont et à le mettre comme une véritable star, mais on hésiterait à mettre en pratique à la société flamande ce que l'on trouve légitime de mettre en pratique à la société catalane. Donc il y a là un paradoxe non assumé de la part de la NVA.
Bonsoir à tous. Il était donc un peu plus de 15h quand le Parlement de Barcelone a déclaré l'indépendance de la Catalogne.
Si. Si. Si.
L'issue du vote ne fait aucun doute. La majorité des députés catalans vote la résolution qui proclame l'indépendance de leur région.
En Flandre, on est loin, très loin même de ces immenses mouvements populaires tels qu'on a pu les voir en Catalogne. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que tout le monde, même du côté des nationalistes eux-mêmes, reconnaît qu'il n'y a qu'une petite minorité de Flamands qui veut vraiment l'indépendance. Mais reste quand même cette question lancinante. Les partis indépendantistes, conscients de cette si faible légitimité démocratique, pourraient-ils quand même essayer d'obtenir l'indépendance par une voie politique, en capitalisant par exemple sur un blocage institutionnel ?
En 2007, jusqu'en 2010, et puis en 2010-2011, un certain nombre de personnes parlaient du grand soir qui séparerait la Belgique. Moi, j'ai souvent dit, ça sera plutôt un petit matin blême. Ce serait effectivement quelque chose de beaucoup moins grandiose. Ce sera en effet, pas sur un malentendu, mais sur une impasse qu'on en arrivera à. Je ne crois pas que ce sera un projet partagé. En tout cas, du côté francophone, ça n'est pas une ambition partagée, le confédéralisme, très loin de là. Mais de fait, si le reste débouche sur une impasse, on peut y arriver. Mais encore une fois, la question de la légitimité démocratique de cette option sera quand même posée.
Reste un constat, tout de même, que l'on se projette ou non dans une nouvelle réforme institutionnelle, voire dans un nouveau pacte pour la Belgique. Pratiquement tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés constatent que la Belgique est aujourd'hui grippée, que ce fédéralisme a du mal à accoucher de solutions sur les grands enjeux de notre temps. Faut-il alors, comme se le demande Béatrice Delvaux, inverser la vapeur dans notre évolution institutionnelle, remettre des éléments centripède dans ce fédéralisme centrifuge ?
Une question que je me pose, par exemple, c'est la hiérarchie des normes. Patrick de Waal, nouveau patron président de la Chambre, évoque ça, en fait, comme une des raisons pour lesquelles le Vlaams Belang est devenu important et pour lesquelles la Belgique ne fonctionne pas. Et quelque part, il a raison. Mais en fait, ça, je pose la question, qui va oser se dire qu'il faudrait une hiérarchie des normes ? On l'a pas fait parce qu'à l'époque, on voulait pas que un gouvernement de ceci impose une volonté à un gouvernement de cela ou que le fédéral impose des choses au régional. Mais ça, je pense que c'est une des clés majeures. Si on n'arrive pas, parce que tous les ministres qui ont participé à tous les comités de concertation disent ça, ça concerte, mais ça décide rien. C'est une blague. C'est soit on est d'accord avant d'entrer et le comité de concertation ne sert qu'à entériner une décision parce qu'on est d'accord, soit on n'est pas d'accord quand on entre, il n'y aura jamais de décision. Donc c'est vraiment ce truc, ça ne fonctionne pas, c'est du vent.
Mais pour autant, réfléchir à une hiérarchie des normes, c'est-à-dire mettre le fédéral en position d'arbitre sur une série d'enjeux transversaux, est-ce forcément la bonne solution ? Pour l'économiste Benoît Bayonnet, il n'est pas certain que ce soit la panacée.
Alors, est-ce qu'il faut une hiérarchie des normes ou il faut forcer un modèle coopératif ? Le problème, c'est qu'en Belgique, si on dit demain l'État fédéral décide tout seul, je crains qu'on ne va pas résoudre le problème parce que ça n'existe pas, le fédéral qui va décider tout seul sans tenir compte de l'avis des régions. Parce que c'est quand même les mêmes partis politiques qui sont derrière et donc les clivages vont remonter au niveau fédéral. Et les clivages qu'on a aujourd'hui entre l'État fédéral et les régions, on les retrouvera probablement au Conseil des ministres. C'est pour ça que je prônais un fédéralisme plus coopératif où on doit peut-être, alors là, être innovant en termes de règles, de normes, de sanctions pour forcer la coopération, mais pour sanctionner aussi la non-coopération. Parce qu'aujourd'hui, on a voté, et c'est notamment le cas en termes budgétaires, donc on fait des accords de coopération, mais on ne peut pas dire que si quelqu'un ne respecte pas ses engagements, il y a une sanction qui puisse être mise en œuvre. Et donc c'est peut-être ce sentiment, cet aspect-là qu'il faudrait renforcer pour développer un fédéralisme coopératif où, de facto, tout le monde va travailler à la résolution d'un problème qui est belge, global, voire européen.
Et puis, l'institutionnel n'est pas tout. Il semble évident à tous nos interlocuteurs que ce n'est pas en connectant les tuyaux autrement que, comme par magie, la Belgique se remettrait à tourner rond. La crise dépasse l'aspect institutionnel et communautaire, et pour Béatrice Delvaux, il y a péril en la maison Belgique.
En fait, ce qui me met en colère depuis maintenant plusieurs années, sur lesquelles j'ai fait beaucoup d'éditoriaux, c'est cette inefficacité du pays. On ne peut pas avoir un pays inefficace. On ne peut pas constater les mêmes choses année après année et qu'elles ne soient pas résolues. On ne peut pas avoir une SNCB qui n'arrive pas à l'heure et à laquelle on n'arrive pas à donner les moyens de résoudre les problèmes. On ne peut pas se dire qu'on va résoudre le problème climatique sans savoir toujours aujourd'hui ce qu'on va faire sur le nucléaire. Tout le monde est désespéré. Et c'est cette désespérance qui a mis les gens vers l'extrême droite. Parce qu'évidemment, leurs solutions sont simples, mais c'est par manque de courage des gens qui avaient les solutions difficiles et qui devaient les mettre en place. On ne peut pas dire aux gens que le vieillissement n'est pas un problème sans trouver des solutions autour. Mais il faut s'attaquer et y aller jusqu'au bout et en tenant compte de tout. Évidemment que si on allonge l'âge de la retraite, il faut gérer les fins de carrière, il faut gérer les métiers difficiles. C'est un tout. Et il faudrait peut-être refaire une école du compromis et une école de comment on arrive à des décisions communes. Ça, je sais pas, peut-être que ça existe, mais je suis pas sûre que c'est ce qu'on enseigne dans les universités. Parce que je pense que dans les universités, on enseigne beaucoup de choses sur le savoir, notamment dans tout ce qui est école de gestion, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'on apprend à comment faire advenir une décision commune pour le bien de tous ces stakeholders, comme on dit, tous ceux qui sont un intérêt à la chose.
Voilà qui nous ramène à cette crise de la décision politique qui dépasse largement d'ailleurs les frontières belges et qui secoue aujourd'hui pratiquement toutes nos démocraties occidentales. Tiens, et la Belgique ? Vous y tenez, vous ? C'est la question que j'ai posée pour terminer ce documentaire à chacun de nos invités. Ont-ils un attachement sentimental à la Belgique ? Trouvent-ils, trouvent-elles qu'elle mérite d'être sauvée ?
Émotionnellement parlant, je ne suis pas particulièrement attaché à la Belgique, ni à la Flandre d'ailleurs. Disons que, au moment de la disparition, de la scission, d'une éventuellement scission de la Belgique, je ne verserai pas une larme. Mais de l'autre côté, je ne verserai pas une goutte de sueur, ni une goutte de sang pour que la Belgique disparaîtrait.
J'aimerais penser qu'un pays comme la Belgique fonctionne intelligemment, parce que sinon, de fait, alors l'Europe ne peut pas fonctionner. Je veux dire, c'est juste pas possible. Et c'est stupide à dire, mais moi j'ai envie de penser que l'espace européen fonctionne. Et donc, qu'on peut trouver, pour solutionner des problèmes, il y a des problèmes qui sont mieux solutionnés à proximité du pouvoir local, peut-être dans sa langue, et que c'est important pour préserver le sentiment des gens qu'ils ne sont pas perdus dans un ensemble, mais il y a des problèmes qui sont tellement mieux solutionnés quand on les gère ensemble de façon cohérente.
Je ne tiens pas à la Belgique institutionnelle ou à la Belgique politique. Par contre, je crois qu'il y a un sens à cultiver le meilleur d'une certaine belgitude, d'un certain état d'esprit, d'un certain mode de comportement, un mélange d'autodérision, de modestie, de simplicité, d'ouverture. Mais la Belgique comme mécano politique, moi je fais partie de ceux qui ont essayé pendant un certain temps d'en enseigner les vertus, et elles sont réelles, parce qu'il y a des vertus de pacification qui sont considérables. Il suffit de comparer avec d'autres régions très clivées pour comprendre que finalement on a quand même inventé un système qui globalement fonctionne. Simplement, il fonctionne de manière tellement lourde, tellement compliquée, tellement difficile à lire, qu'on peut difficilement aujourd'hui en faire un modèle de démocratie, au sens où une bonne démocratie suppose que tout le monde ait l'impression de comprendre et de partager le mode de fonctionnement.
Une fois qu'on aura stabilisé le modèle fédéral, je pense qu'on pourra construire un modèle coopératif. Et là, tout le monde sera gagnant. Et une Belgique fédérale, je veux dire, il y a un Canada fédéral, il y a les États-Unis, il y a une structure fédérale, je veux dire, ça a tout son sens. Et on retrouvera, à mon avis, une fierté dans un système fédéral plutôt qu'une concurrence ou une compétition entre le nord et le sud du pays.
Je
dirais que les frontières nationales sont en train de devenir beaucoup plus floues. D'ailleurs, la frontière physique n'existe plus. Je ne suis pas vraiment européen, je ne suis pas vraiment belge, je ne suis pas vraiment flamand, je ne suis pas vraiment anversois. Et peut-être que dans l'histoire, les gens n'ont jamais eu ce reflet très national en Belgique parce qu'on était toujours un pays presque occupé, une région et occupée par d'autres nationalités. Mais je crois qu'il faut bien réfléchir sur... la Belgique n'est peut-être pas le modèle idéal, mais bon, c'est comme ça. Il faut accepter les faiblesses, mais aussi voir les forces. Et si on garde que les faiblesses et on ne développe plus les forces, bon, on est perdant dans les deux côtés.
Je suis très attachée à la démocratie. Alors que cette démocratie porte le nom de Belgique ou porte le nom de Bruxelles, je dirais... Peu m'importe. Je n'ai pas d'émotion particulière quand j'entends la Brabançonne. J'aime bien faire la fête si les Diables Rouges gagnent. Mais c'est des attachements qui sont des attachements, somme toute, éphémères. Ce qui, pour moi, est important, c'est effectivement de pouvoir fonctionner dans une démocratie, de pouvoir garder des espaces de contact. Je suis très attachée à l'idée de travailler chaque jour avec des historiens de l'ensemble du pays et en particulier des historiens du nord du pays. Donc, ça me manquerait profondément si la Belgique disparaissait que de ne plus avoir ces contacts. Là, je considérerais que l'on m'ampute de quelque chose. Mais que demain, ça porte un autre nom, j'avoue que ça ne me fait pas chavirer en particulier.
La Belgique n'a pas une très grande identité, sauf ce manque d'identité qui est aussi une identité. Je suis toujours touché, je ne l'ai jamais oublié, c'est que quand la Yougoslavie a disparu, et on sait dans quelles circonstances, avec quels résultats, il y a des anciens qui n'étaient pas des... réactionnaires, mais des jeunes qui ont reconstruit la Yougoslavie sur Internet. Alors je pense qu'on peut toujours reconstruire la Belgique sur Internet. Peut-être c'est le sort de chaque état classique, pas demain, pas après-demain, mais vers la fin de ce siècle-ci. Et l'état a servi, place à quelque chose d'autre. La structure n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est la politique qu'on fait dans ce contexte.
C'était La Belgique en question, un docu-radio en 3 épisodes, à la réalisation sonore Jérémy Van Belleghem, à la programmation musicale Laurent Grolus, une émission que vous pouvez retrouver 24 heures sur 24 sur RTBF Ovio et sur toutes les plateformes de téléchargement.